Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Grand Ciel, au micro Yves Bastide pour l'émission « Si ma mémoire est bonne ». Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un organisme connu dans le monde entier, par l'actualité, par les films, par les romans, le FBI, Bureau fédéral d'investigation, créé aux États-Unis en 1935. C'est un organisme qui a été créé pour lutter contre les crimes fédéraux. Et très vite, il est devenu prioritaire sur les polices locales, les polices des différents États des États-Unis. Son rôle, lutter contre les attaques terroristes, contre l'espionnage, contre les cyberattaques, contre la corruption, contre la mafia, et collecter des renseignements. Actuellement, on compte 13 000 agents, 20 000 techniciens et 500 agences. Signalons au passage que très vite, le terme de FBI a été transformé pour devenir fidélité, bravoure, intégrité. Il est évident que un si beau programme ne résistera pas complètement à un examen détaillé du rôle joué par le FBI dans la vie publique des États-Unis. Alors, au FBI est attaché un personnage qui, il faut bien le reconnaître, atteint un peu la dimension du mythe. C'est John Edgar Hoover. Alors, qui était John Edgar Hoover? Il est né le 1er janvier 1895 à Washington. Son père va mourir alors qu'il est assez jeune et jusqu'à la mort de cette dernière, il va vivre avec sa mère. Sa mère meurt en 1938, donc jusqu'en 1938, John Edgar Hoover va vivre avec sa mère. On ne lui connaît aucune relation féminine, si l'on accepte bien sûr son attachement profond à celle qui lui a donné le jour. Et avant le FBI, il y a eu un bureau d'investigation qui a été créé en 1924, supprimé en 1935. Et dès 1924, Hoover est le président, le directeur de ce bureau d'investigation. Et lorsque le bureau d'investigation devient le bureau fédéral d'investigation, en 1935, Hoover en devient le directeur presque naturellement. Et il restera jusqu'à sa mort le 2 mai 1972. Il aura passé 48 ans dans cet organisme. Il aura exercé son pouvoir énorme sous 8 présidents différents, de Calvin Coolidge à Richard Nixon. beaucoup trouvaient que 48 ans à la tête d'un organisme aussi puissant, c'était beaucoup. Et après la mort de Hoover, en 1972, le mandat du président du FBI va être ramené à 10 ans. N'empêche que 48 ans à la tête d'un organisme qui est, aux yeux de certains, était le plus puissant des États-Unis, a de quoi laisser perplexe. Alors, qui était John Edgar Hoover? Je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne lui connaît pas de vie privée, de vie sentimentale. Il avait un adjoint, Clyde Tolson, avec qui il passait tous ses moments libres, sans compter les moments de bureau, bien sûr. Il passait ses vacances avec lui, au point que on n'a pas hésité à les appeler Johnny and Clyde. Tolson s'appelait Clyde, Johnny par allusion à John Edgar Hoover. Et c'était, bien sûr, une allusion à peine voilée au couple qui a défrayé la chronique mondiale, Bonnie and Clyde. Je vous signale au passage que Clint Eastwood, en 2011, a réalisé un film, G. Edgar, avec, dans le rôle de John Edgar Hoover, Leonardo DiCaprio.
Radio Grand Ciel, la radio qui rapproche les hommes. Thank you.
Le moins qu'on puisse dire de John Edgar Wells, c'est qu'il avait des idées bien arrêtées sur ce qui se fait et ce qui ne se fait pas, sur le bien et le mal. Il s'estimait le garant, le protecteur des valeurs héritées de son éducation. Et puis, surtout, pour lui, l'administration était au-dessus de tout. Au départ, il était protestant, puis il est devenu presbytérien. Il avait une volonté d'acier. Ainsi, tout le monde savait que, au départ, il était bègue. Pendant des années, il a lutté contre ce bégaiement et lorsqu'il parlait, lorsqu'il faisait un discours, et il adorait les discours, il était très rare qu'on arrive à se rendre compte qu'au départ, il était bègue. Alors, une chose caractérise la direction de Hoover à la tête du FBI, c'est sa manie de faire des fiches. On n'était pas encore à l'époque de l'ordinateur, il avait dans son bureau des milliers et des milliers de fiches. On a dit beaucoup de choses sur lui, notamment en 1917, lorsqu'il n'était pas parti pour le front, mais il pouvait prétendre qu'il était resté comme soutien de famille. Alors, il va s'attaquer à tous ceux qui, dans son idée, menaçaient l'intégrité des États-Unis. Par exemple, lorsqu'il fait arrêter et condamner les deux anarchistes italiens, Sacco et Vanzetti, qui seront exécutés. Il parvient aussi à affirmer, à assurer la primauté du FBI sur tous les services locaux. C'est un problème qui a fourni beaucoup de matière aux auteurs de romans policiers, que cette lutte entre le pouvoir fédéral et le pouvoir de l'État ou le pouvoir d'une commune. Et puis, Hoover avait un génie, celui de la publicité. Il adorait la publicité. Il adorait retrouver son portrait à la une des journaux. Il adorait que les gros titres de ces journaux mentionnent son nom. Bien sûr, il va entretenir les rumeurs. Je vous l'ai déjà dit, on l'accusait d'être homosexuel, on l'a accusé d'être nazi. En fait, on n'a aucune preuve de toutes ces affirmations. N'empêche que il ne va pas hésiter à enfoncer dans ses idées, à faire surveiller les personnages les plus importants. Alors que pendant les mandats de Roosevelt, il a eu toute la confiance du président, parce que très vite, il ne dépendait plus que du président des États-Unis. Il ne va pas hésiter à faire surveiller Eleanor Roosevelt, qui était une féministe convaincue. Pendant un certain temps, il va soutenir McCarthy, le sénateur de Wisconsin, jusqu'à la disparition progressive de ce dernier, après des procès retentissants, ce qu'on appelait le McCarthyisme. Il va lutter férocement contre le pasteur Martin Luther King. Pour lui, c'était impensable que les Noirs obtiennent les mêmes droits que les Blancs aux États-Unis. Et il va s'en prendre au pasteur en dévoilant ses liaisons, ou soi-disant liaisons, extra-conjugales. Lorsque Hoover meurt, en 1972, sa secrétaire va brûler pendant des semaines tous les dossiers qu'il avait accumulés sur un nombre incalculable de personnes. Alors, est-ce que ces dossiers, s'ils avaient été mis sur la place publique, auraient révélé beaucoup de choses? On ne peut pas le savoir, mais quelque part, ça laisse beaucoup de place à l'imagination et aux élucubrations de tout genre qui n'ont pas manqué autour de Hoover. Je vous propose une pause musicale. Thank you.
Radio Grand Ciel, 101.4 à Nogent-le-Rotrou.
Permettez-moi à présent d'évoquer quelques-uns des crimes qui ont passionné les États-Unis et le monde entier, du temps où Hoover dirigeait le FBI. Je voudrais commencer par le fils de l'aviateur Charles Lindbergh. Lindbergh avait un fils, le petit Charles, Charles Junior, puisque le père s'appelait Charles, né en 1930, enlevé et tué en 1932. Là, le FBI a retrouvé le coupable, Hauptmann, en 1934, 2 ans après la mort du petit garçon. On va découvrir la rançon et Hauptmann sera exécuté le 3 avril 1936. Une autre affaire qui, elle, s'est déroulée après la mort de Hoover. Je peux vous parler de l'accept de Jim Jones en Guyane, au sud des États-Unis. Jim Jones était un soi-disant pasteur fou qui avait créé une église à son image, la People's Temple. Et il avait créé également un endroit de vie pour les membres de son église, qu'il avait baptisé modestement Jonestown. C'était en 1977 en Guyana. Ce qui est étonnant, c'est que parmi les adeptes de cette église, on compte que 80% étaient des Afro-Américains. Le problème, c'est que une fois entré dans l'église, une fois introduit dans Jonestown, les gens avaient l'interdiction de partir. Et le 18 novembre 1978, les membres de l'église reçoivent l'ordre de se suicider. Il y aura 911 morts, adultes et enfants. Jones appellera ça un suicide révolutionnaire. On compte 167 survivants parce que certains n'étaient pas dans la ville au moment du suicide. Je voudrais évoquer aussi une personnalité dont vous avez peut-être la mémoire à travers le cinéma. Je veux parler de Scarface. Alphonse Gabriel Capone, né en 1899 à New York, dit Scarface, le balafré. De parents italiens, il s'est installé à Chicago et il vivait essentiellement du jeu, de la prostitution, de l'alcool. Signalons au passage que la Cadillac blindée de Capone, de Scarface, va échoir à Roosevelt à la mort de ce dernier. Il va s'illustrer notamment par le fameux massacre de la Saint-Valentin. Et puis, il va être condamné. Pour fraude fiscale, non pas pour meurtre, mais pour fraude fiscale. Il sera libéré et bêtement, il va mourir de la syphilis en 1947. À l'époque, il était complètement gâteux, toujours à cause de la syphilis. Alors, si vous avez l'occasion de revoir des vieux films, le premier concernant Capone s'appelle Scarface, justement. Il date de 1931, c'est un film de Howard Hawks, un excellent film où Capone est incarné par Paul Muni. Il y a eu aussi en 1983 un autre film, Scarface, de Brian De Palma, avec dans le rôle principal Al Pacino.
RGC.
Little painted lady, with your lovely clothes, where are you bound for, may I ask? What should diamonds cost you? Everybody knows, all the world can see behind your mask. All dolled up in glad rags, tomorrow may turn to sad rags. They call you glad rag doll. Admire, desired by lovers who soon grow tired. Poor little man, rag doll. You're just a pretty toy they grow old and gray with. too late to mend your poor little black rag doll.
Il serait dommage de ne pas évoquer un couple dont on a abondamment usé à propos de Hoover, Bonnie and Clyde. Ils ont régné sur l'actualité mondiale, au moins américaine, en pleine dépression économique. Il y a d'un côté Bonnie Elizabeth Parker, née en 1910, de l'autre côté, Clyde Chestnut Barrow. Alors on a dit que Clyde était plus ou moins impuissant. Laissons à chacun le soin de dire ce qu'on pense. Mais Bonnie réussit à le faire évader de prison deux fois. La deuxième parce qu'il s'est mutilé volontairement. Ils ont passé 5 ans de leur vie ensemble dans une fuite perpétuelle jusqu'au moment où ils seront tués par une rafale de mitraillette en 1934. Alors, on ne peut qu'évoquer, bien sûr, l'excellent film d'Arthur Penn en 1967, qui s'appelle Bonnie and Clyde, justement, avec dans les deux rôles principaux Warren Beatty et Faye Dunaway. Alors, il est difficile aussi de ne pas évoquer une autre star du banditisme international, John Dillinger. John Dillinger, c'était l'ennemi public numéro un. Il a été abattu en 1934 et abattu sur dénonciation d'une amie de celle qui vivait avec lui. Signalons que parmi les films les plus récents consacrés à Dillinger, il y a Public Enemies de Johnny Depp en 2009, mais j'ai compté pas moins de 13 films consacrés à Dillinger et à sa vie. Et je voudrais conclure avec l'attentat de Birmingham en 1963, alors que Hoover était encore à la tête du FBI. Il y a eu des morts dans une église fréquentée par des Noirs. On sait que le Ku Klux Klan était à l'origine. Mais du temps de Hoover, on n'attaquait pas les membres du Ku Klux Klan. Il défendait une certaine idée de l'Amérique, libérée de ses Noirs. Et les coupables ont été condamnés à 6 mois de prison avec sursis et à $1,000 d'amende. Finalement, la justice a fini par triompher. Ils ont été rejugés en 1976 puis en 2001. Cette fois-ci, ils ont été condamnés, et sévèrement. Alors, même si Hoover avait tout fait pour que ce crime demeure impuni, c'est la justice qui a eu le dernier mot. Je vous remercie de m'avoir écouté.